Les bourses aux matières premières. Comme pour les produits financiers, les matières premières s'échangent sur des plateformes informatiques centralisatrices, des bourses, auxquelles acheteurs et vendeurs se connectent pour passer et répondre à des petites annonces. Ces bourses sont nombreuses et les plus importantes d'entre elles sont le London Metal Exchange, le Chicago Mercantile Exchange et le New York Mercantile Exchange. Quand le cours des matières premières fait l'objet de paris financiers. Parce que les matières premières ne sont pas des titres de propriété, des créances ou des paris que l'on peut transférer à l'autre bout du monde en l'espace d'un clic, le marché des matières premières nécessite un système de livraison extrêmement complexe. Ainsi, plutôt que d'échanger des matières premières directement, on s'échange des contrats qui donnent le droit à se faire livrer une certaine quantité de matières premières à une certaine date dans le futur. Celle-ci varie en général d'un à 12 mois. Vous les avez sûrement reconnus, ces contrats sont des contrats à terme. Cela dit, il est possible de participer aux échanges de contrats à terme sans se faire livrer quoi que ce soit. Celui qui perd le pari paie la différence entre le prix de départ et le prix d'arrivée, règlement monétaire plutôt que livraison, et donc de simplement parier sur la hausse ou la baisse des prix. Ainsi, les acteurs du marché des matières premières qui en fixent les prix sont en partie des financiers qui n'en produisent pas ni ne cherchent à s'en faire livrer. Les plateformes d'échange sont tellement nombreuses et les données difficiles d'accès, sans compter tous les échanges qui se font de gré à gré, qu'il est extrêmement difficile de savoir exactement comment les prix sont fixés. Entre financiers qui se couvrent ou qui spéculent et véritables entreprises productrices ou ayant besoin de se faire livrer, le flou est total et on ne sait pas réellement qui a la main. La crise pétrolière des années 2000, quand les moutons de Panurge décident du sort du monde. Afin de bien comprendre comment les acteurs financiers peuvent impacter les prix des matières premières, il est intéressant de se pencher sur un exemple. Entre 2002 et 2008, le prix du baril de pétrole est monté de manière quasiment linéaire de 20 dollars à 100 dollars avant d'exploser à 145 dollars en juillet 2008 pour s'effondrer à 35 dollars en janvier 2009. Je vous laisse utiliser Google si vous voulez savoir ce que les prix ont fait par la suite. La période qui nous intéresse est celle de 2003 à 2008. Durant celle-ci, il semble que les grands fonds d'investissement mondiaux, composés notamment de fonds de pension, se sont mis à parier sur la hausse des prix du pétrole, comme le souligne l'ouvrage 20 propositions pour réformer le capitalisme, sous la direction de Gaël Giraud. Pourquoi? En 2003, le taux directeur de la Fed, la Banque centrale américaine, est au plus bas et les financiers, qui savent que les banques centrales aiment jouer au yo-yo avec leurs taux pour, elles en sont certaines, réguler l'activité économique, craignent que celui-ci soit bientôt remonté. Nous l'avons déjà expliqué, le prix des obligations déjà émises diminue lorsque le taux directeur est relevé. Or, les fonds d'investissement les plus puissants, ceux qui sont à la tête des plus grandes quantités d'épargne, sont bien souvent des fonds de pension ou des fonds d'investissement qui gèrent la monnaie de monsieur et madame classe moyenne. Ce sont donc des fonds qui prennent peu de risques et qui préfèrent acheter des obligations d'État, qui rapportent peu, mais dont le risque de non-remboursement est très faible. La question pour ces fonds est la suivante. Comment se protéger contre la baisse de valeur des obligations détenues lorsque la Fed remontera son taux directeur? La réponse se trouve en partie dans les produits dérivés, notamment les contrats à terme dont les sous-jacents sont des obligations d'État. Mais les montants à placer sont tellement importants qu'une seule solution ne suffit pas. De plus, les financiers aiment diversifier leurs paris. Ils évitent de mettre tous leurs œufs dans le même panier, quoi. Parce que les solutions techniques permettant l'accès aux contrats à terme sur le pétrole sont en train de se développer, une idée naît dans l'esprit des financiers. Qui dit hausse des taux dit lutte contre l'inflation. Qui dit inflation dit activité économique débordante. Et qui dit activité économique débordante dit besoin de matières premières, et notamment de pétrole. CQFD. Le prix du pétrole devrait grimper avec les taux d'intérêt. Vous le savez bien, ce raisonnement ne livre en rien la vérité du fonctionnement économique. Comme nous l'avons longuement expliqué, les choses sont beaucoup plus complexes, mais vous savez, les raisonnements financiers... Ainsi, les fonds d'investissement se mettent à partir de 2003 à prendre de plus en plus de paris à la hausse, achat de contrats à terme sans option de livraison, sur le prix du pétrole. Sauf que, comme les livraisons de pétrole s'organisent autour des contrats à terme, ceux-là avec option de livraison, mais leur prix est le même que les autres, leur prix est le vrai prix du pétrole. Et effectivement, entre 2003 et 2008, alors que le monde ne manque pas de pétrole, que la demande n'accélère pas particulièrement et qu'il n'y a pas non plus de problème de production majeur, le prix du pétrole grimpe jusqu'à 100 $ le baril. Voilà bien une prophétie autoréalisatrice typique des marchés financiers. Les fonds, convaincus que les prix vont grimper, parient à la hausse, ce qui provoque l'augmentation des prix et déclenche de nouveaux paris haussiers. En 2008, alors que la crise commence à se faire sentir, les financiers, vendant les produits subprimes et tout ce qui s'en rapproche, récupèrent des sommes importantes qu'il faut bien placer quelque part. On parle de valeurs refuges. Ce sont des actifs que les acteurs des marchés aiment acheter quand ils paniquent. Or, on retrouve parmi eux, probablement parce qu'on estime que celui-ci aura toujours de la valeur, le pétrole. Quoi qu'il en soit, alors que le risque d'un effondrement financier naît dans les esprits, les fonds se jettent sur le pétrole, faisant grimper son prix de 100 $ en mars 2008 à 145 $ en juillet de la même année. Et soudainement, les financiers changent d'avis. S'il y a effondrement financier et ralentissement économique, alors la demande de pétrole va diminuer. En effet, lorsque la consommation décline, tout le processus industriel de fabrication et de transport des marchandises ralentit. Le prix du pétrole devrait donc être faible dans les années à venir. Horreur ! Les fonds vendent massivement leurs contrats à terme, faisant s'écrouler le prix du pétrole. En 6 mois seulement, le prix de l'or noir passe de 145 à 33 $. Encore une prophétie autoréalisatrice. Pour résumer, le prix des matières premières est fixé sur des marchés à terme sur lesquels interviennent évidemment des producteurs, des fournisseurs et des industriels qui ont besoin de ces ressources. Cependant, comme les contrats à terme ne sont pas tous porteurs de l'obligation de livrer ou de se faire livrer, la formation du prix fait aussi intervenir des financiers du monde entier, financiers qui ne se soucient pas nécessairement de la réalité de l'offre et de la demande. Conclusion, le prix de nos matières premières n'a parfois rien à voir avec la difficulté de production ou la rareté de la ressource. Too big to fail. On entend souvent parler des géants financiers que sont certaines banques dites universelles et du fameux risque systémique qu'ils posent. De quoi parle-t-on réellement ? Les banques universelles. Avec la dérégulation et la financiarisation de l'économie à la fin des années 1970, les plus importantes banques de dépôt dans le monde ont toutes fini par fusionner avec des banques d'investissement pour donner un nouveau type de géant financier, les banques universelles. Ainsi, quand les marchés financiers vont mal, la contamination du virus crise à l'économie réelle se fait encore plus rapidement. Et oui, les pertes colossales des départements banques d'investissement poussent irrémédiablement les banques universelles et leurs divisions banques de dépôt vers la banqueroute. Parce que la faillite des banques de dépôt provoquerait la disparition de la monnaie scripturale que nous utilisons tous, les gouvernements ont très vite fait de les secourir plutôt que de les laisser exploser en vol. Voilà pourquoi, durant la crise des subprimes et de l'euro, les banques universelles ont toujours été très largement aidées par les États, ce qui a, au passage, consisté en un transfert de dettes de leurs épaules vers celles de la puissance publique, d'où la crise de l'endettement public. Ok, c'est plus compliqué, mais l'idée reste correcte. Une loi pas mal, et puis finalement non. Ce risque de contagion a été parfaitement identifié aux États-Unis après le krach boursier de 1929. Le gouvernement Roosevelt avait fait voter en 1932 une loi appelée Glass-Steagall Act qui interdisait l'activité d'une banque universelle. Les banques devaient choisir entre activité de marché ou activité de dépôt. Cependant, cette loi a été abrogée en 1999 par le gouvernement Clinton. Fun fact, ce rétropédalage est dû à la fusion en 1998 de deux géants bancaires américains, Citicorp, une banque de dépôt, et Travelers Group, une banque d'investissement, pour donner le géant Citigroup. Comme la loi interdisait la naissance du colosse, qui avait pourtant vu le jour, les lobbies bancaires se sont affairés à Washington pour faire abroger le Glass-Steagall Act, ce qu'ils ont obtenu quelques mois après la fusion. Quoi qu'il en soit, les banques universelles sont aujourd'hui toujours en activité et parfaitement légales partout dans le monde. La France est dans ce domaine la championne du monde toute catégorie, grâce aux géants que sont BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole et le groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne, BPCE. Pour vous donner une idée, les divisions banques d'investissement des quatre plus grosses banques universelles états-uniennes, JP Morgan, Bank of America, Citigroup et Goldman Sachs, possèdent un total de 3600 milliards d'euros de produits financiers, quand les quatre géants français, toujours en ne regardant que la partie banque d'investissement, en cumulent 4470 milliards. Chiffre obtenu en soustrayant les dépôts de la banque de détail du reste des activités. Autrement dit, la France, dont le PIB est 8 fois moindre que celui des États-Unis, est responsable en cas de problème du sauvetage de mastodontes dont l'exposition est supérieure à celle des géants américains. Malgré tout, l'interdiction des banques universelles, c'est-à-dire la séparation des activités de marché et de dépôt dans des entreprises distinctes, n'est pas d'actualité. En effet, sans une banque de dépôt sur laquelle s'appuyer en cas de mauvais pari, les banques d'investissement seraient obligées de réduire leur effet de levier. De quoi s'agit-il ? Effet de levier, petite variation, gros dividende. Nous avons déjà parlé de l'effet de levier permis par les produits dérivés. Or, il faut savoir que la dette est également un excellent moyen de faire naître un effet de levier. Imaginez un investissement de 100 euros qui en rapporte 10. Si les 100 euros vous appartiennent, votre rendement est de 10%. Gain 10 euros divisé par investissement venant de votre poche 100 euros égale 10%. Facile. En revanche, si vous vous faites prêter 95 euros moyennant un versement d'intérêt de 4 euros et n'investissez que 5 euros de votre poche, votre rendement augmente. Gain 10 euros moins paiement des intérêts 4 euros divisé par investissement venant de votre poche 5 euros égale 120%. Voilà en quoi la dette, si le taux d'intérêt n'est pas trop élevé par rapport aux opportunités de gain, est un excellent moyen de maximiser le rendement. Les banques fonctionnent sur le même principe. Le stock de produits financiers détenus par une banque est en grande partie acheté grâce à des emprunts et pas grâce à de la monnaie injectée par les actionnaires propriétaires de la banque. Cela s'explique notamment par le fait que les banques d'investissement utilisent des stratégies très peu rentables et donc a priori très peu risquées, enfin très peu risquées, d'après ce qu'en disent les modèles mathématiques. Par exemple, en 2018, BNP Paribas a enregistré un chiffre d'affaires de 40 milliards d'euros pour une quantité d'actifs financiers détenus de 2040 milliards, soit un tout petit rendement de 1,9%. Cependant, parce que la Banque universelle utilise 1935 milliards de dettes, le rendement pour les actionnaires, une fois les salaires payés, était de 9,6%. Plus la quantité de dettes rapportée à la quantité de monnaie injectée par les actionnaires est importante, plus le rendement l'est aussi. Dans le cas de BNP Paribas, les actionnaires n'ont versé que 5% de la monnaie qui a servi à acheter tout ce qu'elle possède. Et son cas n'est absolument pas isolé. Les banques universelles du monde entier financent toutes entre 90 et 95% de leurs activités par de la dette plutôt que par du capital injecté par leurs actionnaires. Le problème, c'est que cet effet de levier les rend particulièrement fragiles. Des colosses aux pieds d'argile. Lorsque l'effet de levier d'une banque universelle est de 95%, cela signifie que les actionnaires ne possèdent que 5% de la banque. En cas d'incendie financier au sein de la banque, traduisez incendie par forte baisse des cours, les flammes ne doivent donc surtout pas ravager plus de 5% de la banque, sans quoi cette dernière fait faillite. C'est la faillite comptable dont nous avons déjà parlé. Or, en période de crise, les indices actions peuvent chuter de plus de 30%, voire 40% en quelques mois, tandis que les indices obligataires peuvent perdre entre 5 et 30%. Pour éviter de s'effondrer, les banques doivent alors posséder des murs en béton armé et être équipées de dispositifs anti-incendie dernier cri parfaitement opérationnels. Quels sont ces murs de béton et dispositifs en réalité? Des modèles mathématiques théoriques. Les mêmes que ceux utilisés par les arbitragistes. Et oui, c'est logique, puisque les market makers qui travaillent dans les salles des marchés sont des arbitragistes. Or, nous l'avons déjà expliqué, ces modèles perdent complètement pied quand les crises pointent le bout de leur nez. En d'autres termes, les murs sont solides quand tout va bien, mais ils se comportent comme de l'argile quand les incendies se déclarent. L'antidote à cela serait pourtant simple. Puisque les modèles mathématiques offrent une faible protection en période de crise, il suffirait de contraindre les actionnaires à détenir une plus grande part du capital des banques. En effet, si un incendie peut ravager jusqu'à 20% ou 30% des murs, alors il suffit que les actionnaires en possèdent 40% pour que les banques restent debout. On dit que les banques devraient être plus capitalisées. Rappel, les accords de Bâle ont justement pour but de mieux capitaliser les banques. Sauf que les ordres de grandeur sont d'un tout autre niveau, 5% à 10% de capital requis contre les 30% à 40% nécessaires. Or, qui dit plus de capital et moins de dette, dit moins d'effet de levier, donc moins de rentabilité. Les actionnaires ne sont donc pas prêts d'accepter cette solution. D'autant plus que les banques universelles sont si énormes que les États, comme les banques centrales, préfèrent les sauver plutôt que de les laisser s'effondrer. Bonne rentabilité si tout va bien, perte limitée si ça tourne mal, pourquoi changer? Pourquoi ne pas laisser les banques universelles s'effondrer? Les banques universelles sont énormes. Et alors? Pourquoi faudrait-il à tout prix les sauver? Pour préserver l'économie réelle. Le premier argument est celui de la propagation de la crise à l'économie réelle. La faillite vient du département banque d'investissement, mais elle provoque la chute de la banque de dépôt qui héberge les promesses des épargnants. Certains États ont ainsi tenté de traiter séparément les deux départements, banque d'investissement et banque de dépôt. La gestion islandaise de la crise des subprimes. L'histoire récente a prouvé qu'il était possible d'être créatif en temps de crise. Lors de la crise de 2008, plutôt que de sauver ces trois banques universelles, Kaupthing, Landsbanki et Glitnir, le gouvernement islandais a choisi de n'aider que les départements banques de dépôt de ces colosses. Les promesses des épargnants ont donc été sauvées et les actionnaires ont dû faire face seuls à la faillite des départements banques d'investissement. Cependant, toute créativité reste dangereuse en ce domaine, notamment à cause du deuxième argument en faveur du sauvetage des banques, la crainte de la faillite en chaîne. Pour éviter une faillite en chaîne. Quand une banque universelle est en danger, même si on ne laisse que la division banque d'investissement s'effondrer, sa chute risque de provoquer un effet domino. La raison en est simple. Les banques d'investissement passent leur temps à faire des paris, les produits dérivés, afin de s'assurer contre différents risques, les stratégies d'arbitrage. Or, si la banque d'investissement fait faillite, les paris qu'elle perd et qui ne sont pas couverts par une chambre de compensation, qui peuvent peser des centaines de milliards d'euros, ne sont pas tous honorés. Sans compter tous les emprunts, rappelez-vous de l'effet de levier, que la banque ne peut plus rembourser. La question devient alors, qui sont les acteurs à l'autre bout de ces paris et de ces dettes? Ont-ils simplement parié ou se sont-ils assurés contre un risque? Sont-ils capables de survivre à un non-remboursement? Ne risquent-ils pas de faire faillite eux aussi et de propager encore davantage l'incendie? Imaginez une immense toile d'araignée suspendue au-dessus d'un village, qui supporte un énorme rocher en son centre. On vous informe que certains fils sont en train de lâcher. Vous avez quelques jours pour prendre une décision. Soit vous renforcez les fils, intervention de l'État ou de la Banque centrale, soit vous les laissez céder, faillite. Que va-t-il se passer si vous choisissez la deuxième option? La toile va-t-elle résister à la rupture de quelques fils ou votre village va-t-il être écrasé par le rocher? Il faudrait pouvoir faire une analyse structurelle détaillée de la toile pour être certain, mais cela prendrait des mois, peut-être des années. Or, la décision doit être prise maintenant. Sachant qu'un simple krach boursier suffit à provoquer un ralentissement des dépenses sur le marché du neuf, et donc à freiner l'activité économique réelle. Que pourrait bien provoquer, en plus de ce krach, la faillite d'une énorme banque d'investissement connectée à des milliers d'acteurs financiers différents? Le cas de Lehman Brothers. Depuis le 15 septembre 2008, nous connaissons la réponse. À cette date, le gouvernement américain a décidé de laisser faire faillite la banque d'investissement, pas une banque universelle donc, Lehman Brothers, qui était environ 30 fois plus grosse que les banques universelles islandaises, mais deux fois plus petite que BNP Paribas. Aujourd'hui, on considère que le véritable déclenchement de la crise de 2008 a été cette faillite de Lehman Brothers, qui a totalement paralysé le système financier mondial. D'ailleurs, afin d'éviter que le cas Lehman Brothers se répète, le gouvernement américain a par la suite soutenu toutes les banques universelles et banques d'investissement opérant sur son territoire durant la crise des subprimes. Voilà donc ce qu'est le risque systémique. Une seule entreprise peut entraîner dans sa chute toute une économie, tout un système économique, par le biais d'un effet domino. On dit que les banques universelles et certaines banques d'investissement sont « too big to fail ». Même s'il était envisageable de réduire ce risque via la séparation des activités bancaires et la recapitalisation massive des banques d'investissement, il est peu probable que ces décisions soient prises. En effet, le sujet est particulièrement technique et il est facile de se laisser impressionner par des banquiers qui expliquent, par exemple, que si de telles mesures étaient prises, les banques ne seraient plus en mesure de financer l'économie réelle. C'est bien évidemment faux, car les banques universelles sont nées dans les années 1980 et 1990. Or, l'économie réelle ne manquait pas de financement avant leur existence.